Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 11 sur 19. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Alors, nous allons aller dès à présent dans l'évangile de Jean lire le verset 12 du premier chapitre. Alors nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Alors c'est intéressant de constater que Dieu nous a donné le pouvoir, et le mot ici pouvoir peut être traduit par autorité. Donc, Dieu nous a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Il n'est pas dit ici que nous avons eu seulement l'autorité de naître de nouveau. Alors ici, ce sont des termes que nous sommes habitués à utiliser. Mais être né de nouveau veut dire, en fait, de devenir un enfant de Dieu et de nous placer dans une position. Si jamais, je devenais président des États-Unis, c'est une position. Un poste. Et avec cette position, évidemment, vient certains privilèges et aussi des responsabilités et évidemment une certaine autorité qui vient avec cette position. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas seulement né de nouveau. Vous avez été placé dans la famille de Dieu et vous êtes devenu un fils et une fille de Dieu. Et avec cette position en main, il y a des privilèges et aussi des responsabilités. Bien sûr, l'autorité. L'autorité vient avec la position. Il faut très bien saisir cela. Vous ne pouvez pas avoir la position. Vous allez plutôt dans la famille et en tant que membre de la famille, Dieu vous donne évidemment l'autorité. L'autorité est dans la position, c'est inclus. Et la fidélité que vous allez avoir face à cette autorité va être corollaire à la position. Et cela va déterminer la récompense que vous allez recevoir. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous donner de plus grandes choses. Mais votre autorité comme croyant vient évidemment avec la position. Et comment vous utilisez cette autorité va déterminer votre progression ou votre promotion. Est-ce que c'est clair? Alors tous nous avons l'autorité. Vous n'allez pas recevoir l'autorité. C'est quelque chose d'acquis. C'est à vous de décider de l'utiliser. C'est à vous d'avoir votre pensée régénérée par la parole de Dieu, alors que vous puissiez utiliser l'autorité correctement. Alors le point 2, quelle est la position de fils et de fille de Dieu? C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Dans la Genèse au chapitre 1, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez-vous quelle est la position que Dieu a donnée à l'homme? Dieu a placé l'homme à une position d'autorité sur toute la terre. Il n'y a nulle part dans la Bible où vous découvrirez que Dieu a retiré cette position-là. L'homme a autorité sur toute la terre. Et nous voyons plus tard que Satan a convaincu Adam de lui donner cette autorité. Et Jésus nous a rachetés et nous a replacés dans cette position d'autorité. Et c'est pourquoi le diable n'a plus d'autorité. Alors croyez-vous à la Bible? Bien sûr, vous dites. Vous croyez ce qu'il est écrit, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner quelques versets, donc. Dans le psaume 103, au verset 2, nous dit que Dieu a pardonné toutes nos iniquités. Est-ce qu'il y a certaines de vos iniquités ou péchés que Dieu n'a pas pardonné? Aucune? Alors il vous a tout pardonné, n'est-ce pas? Alors, il ne reste rien qui n'a pas été pardonné, n'est-ce pas? Et il ajoute, il guérit toutes tes maladies. Alors, est-ce qu'il y a certaines de vos maladies que Dieu ne guérit pas? Non, aucune. Lorsque nous parlons de la guérison et de la rédemption, alors nous allons parler de ces choses encore plus en profondeur, mais vous devez savoir que le même mot qu'il a utilisé ici deux fois est le même tout, tout. Alors il n'y a rien qui est laissé derrière. Si quelqu'un a tout, il a tout. Je sais que je me répète moi-même, là, mais il y a une raison à cela. C'est que vous puissiez vraiment saisir cette vérité. Alors, nous n'avons pas d'excuses. Alors, dans Matthieu, chapitre 28, cela nous dit, versets 18 à 20, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, est-ce que le mot « tout » signifie « tout » comme nous avons vu dans le psaume 103? Évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas inclus ici? Rien. Alors Jésus a toute autorité. S'il a toute autorité, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a autorité que lui? Non, il a toute l'autorité, n'est-ce pas? Alors je crois que vous commencez à saisir maintenant cette vérité. Je crois que votre pensée est en train d'être renouvelée. Parce que vous êtes en train de réfléchir et de vous dire, si Jésus a toute autorité, qu'il a autorité sur l'ennemi, vous savez que Jésus vous a délégué cette autorité. Alors, à l'intérieur de votre pensée, le miracle est en train de se produire. Et vous comprenez, bien sûr, maintenant, que si le diable ou les démons continuait d'avoir de l'autorité, cela signifie que Jésus n'a pas toute l'autorité. Alors, vous comprenez bien maintenant. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Jésus a toute l'autorité? Parce que la Bible le dit, n'est-ce pas? Laissez-moi vous demander ceci. Si Jésus a toute l'autorité, donc l'ennemi n'a plus aucune autorité, n'est-ce pas? Bien sûr. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si le diable n'a plus aucune autorité, cela signifie qu'il n'a aucun droit de venir en vous ou de venir vous attaquer ou de venir vous opprimer de quelque manière. Il n'a aucune autorité de faire cela. Et si il vient pour s'imposer, s'il vient prendre des droits qu'il n'a plus, alors cela signifie qu'il est un criminel en train de briser la loi, en train de se faufiler à un lieu où il n'a plus droit, où il n'a pas autorité. Il n'a aucun droit d'être là. Alors vous me dites peut-être, oui, mais c'est moi qui lui donne l'autorité. Alors votre pensée est mauvaise, parce que si Jésus à toute l'autorité, cela signifie que vous aussi n'avez aucune autorité, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas donner ce qui ne vous appartient pas et ce que vous n'avez pas. Ou encore, vous allez dire, c'est moi qui donne l'autorité au diable à cause de ce que je fais, à cause des gestes que j'accomplis ou que j'ai accomplis. OK? Habituellement, lorsque je viens dans un endroit, en fait, je conduis ma propre auto. Alors, c'est un peu différent maintenant dans mon illustration, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui me... Je n'ai pas mon auto, mais lorsque je suis chez moi, si je vais quelque part, c'est moi qui conduis mon auto, évidemment. Alors, si vous découvrez les clés de mon auto, qui sont ici, sur la table, et vous dites, ces clés-là sont pour cette auto-là, et vous prenez les clés, et vous retournez, et vous dites à vos amis, vous voyez ces clés? C'est pour cette auto-là. Prenez les clés et prenez l'auto si vous voulez. Et cette personne, l'homme qui a l'auto, sera coupable, évidemment, de voler l'auto, de voler mon auto. Pourquoi? Parce que la personne qui a l'autorité sur cette auto n'a pas donné la permission à cet homme de prendre l'auto, n'est-ce pas? Alors, il est nécessaire que la personne à qui appartient l'auto donne l'autorité à quelqu'un d'autre pour l'utiliser. J'aimerais vous donner un verset. La Bible dit que si vous êtes chrétien, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté avec un prix et vous devez vous présenter votre corps comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice vivant, non pas un sacrifice à demi-mort, un sacrifice vivant. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Si vous vous appartenez à vous-même, alors vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien ne s'appartient plus à lui-même. Un chrétien s'est donné complètement à Jésus. Alors vous n'avez pas le droit de donner l'autorité au diable sur votre corps, n'est-ce pas? Il y a parfois, nous récoltons ce que nous semons, que si vous faites quelque chose qui détruit votre corps, alors oui, vous allez récolter des mauvaises choses. Mais cela n'a rien à voir avec l'autorité et le diable. Je vais vous expliquer mieux encore. Depuis combien de temps le diable est-il criminel devant Dieu? Depuis le début, n'est-ce pas? Il s'est rebellé contre Dieu. Pensons à cela. Disons que nous connaissons un criminel et il s'évade de prison et il se cache et il achète une maison et il achète une auto et il vit une vie normale. Lorsque les policiers vont le découvrir, est-ce qu'ils vont le regarder en disant « Regarde sa vie! Il a un travail, il a une maison, il a une famille. Ce n'est pas un mauvais homme. Laissons-le aller. » Est-ce que c'est cela qu'ils vont dire? Non. Ils vont dire « C'est un criminel. Il n'a jamais eu le droit d'être libre pour acheter cette maison, pour acheter cette auto. » Ou encore pour avoir ce travail. Pourquoi? Parce qu'il est un criminel avant qu'il fasse toutes ces choses. Alors, j'ai des nouvelles pour vous. Le diable est un criminel contre Dieu avant qu'il vienne vous attaquer, avant qu'il te rende malade, avant qu'il te donne cette infirmité. Voici la bonne nouvelle maintenant. Je suis le policier de Dieu. J'ai l'autorité. Comme chrétien, de venir le chasser, l'enlever, l'arrêter et le chasser loin de vous, parce que j'ai l'autorité. Alors, vous me dites, on vient de te surprendre, Curry, parce que tu mentionnes que tu as maintenant l'autorité, que c'est toi qui as l'autorité. Alors, quelle est la différence? La différence est celle-ci. L'autorité que j'ai est l'héritage que j'ai en Jésus. Et cela n'a rien à voir avec moi. Parce que lorsque Jésus est venu en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et à cause de cela, alors lorsque j'utilise son nom et lorsque j'utilise sa parole, ce n'est pas mon autorité que j'exerce, mais bien l'autorité du Seigneur. Si j'utilisais ma propre autorité, alors je dirais, Satan, au nom de Curry Blake, je te commande de laisser cette personne, mais je peux vous garantir qu'il n'entendrait jamais dire ça, parce que ce n'est pas au nom de Curry Blake que nous avons des résultats garantis et que toute l'autorité sur le ciel et la terre nous a été donnée. Mais au nom de Jésus, et lorsque j'utilise ce nom-là, et que j'utilise sa parole, Jésus lui-même a dit, « Si vous recevez celui que j'envoie, ce n'est pas celui ici que vous recevez, vous me recevez moi-même. » N'est-ce pas? Et c'est pour cela que je ne m'inquiète pas si j'ai assez de foi ou non. Et je ne me questionne pas sur mon autorité, parce que c'est son autorité au Seigneur. C'est son nom que j'utilise. Alors je sais que son nom a de l'autorité. Alors je ne m'inquiète pas sur ce que moi j'ai. Alors j'utilise le nom du Seigneur. Alors la question n'est pas si l'autorité que j'ai est suffisante, parce que mon autorité personnelle, j'en ai aucune. Mais est-ce que l'autorité de Jésus est suffisante pour chasser l'ennemi et guérir les malades? Alors, la question est tout simplement, est-ce que je vais persévérer? Parce que l'autorité est toujours suffisante, mais nous devons persévérer jusqu'à ce que nous voyons la chose s'accomplir. mais c'est lorsque je me retire, c'est lorsque j'abandonne que je perds la bataille. Pourquoi? Parce que lorsque je me retire, je n'agis pas comme Jésus agit. Car Jésus n'a jamais retourné en arrière. Il ne s'est jamais retiré au loin. Il ne s'est jamais détourné de la maladie ou du péché. Il a résisté à toutes ces choses. Il a résisté à la tentation jusqu'à la mort. Alors Jésus a témoigné la vérité même devant la mort. Alors lorsque les gens lui ont dit « Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le roi? » Jésus aurait bien pu penser « Oh là là, alors je serais mieux de faire attention à ce que je vais dire parce que je veux vivre. » Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé jusqu'au bout. Il a dit la vérité même devant la mort. Et même si Jésus parlait d'un royaume spirituel et qu'il n'était pas un danger pour les Romains, et pourtant même devant les autorités romaines, il ne s'est pas caché de la vérité. Et cela, sachant que cela allait lui coûter la vie. Et jamais Jésus ne s'est retourné derrière. Jamais il s'est enfui. Et Jésus fera la même chose en vous. Et si nous le laissons agir à travers nous, vous aurez les résultats que Jésus a eus. Parce que voici ce que nous devons nous souvenir. Les résultats que nous désirons voir ne sont pas les résultats que ne viennent pas de notre désir, mais bien du Seigneur en nous. C'est lui qui nous donne ce désir. Vous savez pourquoi je sais ça? Parce qu'avant que vous étiez sauvés, vous n'essayez pas de guérir les malades. Vous n'essayez pas de chasser les démons lorsque vous n'êtes pas un chrétien. Tout ce qu'on veut faire, c'est de faire une bonne vie ou de s'amuser. On veut les choses qui sont bonnes pour nous. Nous sommes égoïstes. Et lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons commencé à penser aux autres. Et voilà la différence. Maintenant, vous pensez aux autres gens d'une manière divine. Parce que maintenant, vous savez que la puissance de Dieu vous est disponible et que vous pouvez aller contre les maladies. Cela n'a rien à voir avec votre propre puissance. Cela n'a rien à voir avec si vous êtes un bon chrétien. La seule chose, je sais que je me répète, mais quand même, la seule chose que Dieu ne peut pas placer en toi, c'est l'engagement, la consécration, d'aller jusqu'au bout. Il a placé le désir en toi, il t'a donné son nom, sa parole, sa puissance, il t'a donné ses dons, il t'a donné tout ce qui est nécessaire. Et la seule chose qu'il ne peut pas te donner est l'engagement d'accomplir la tâche. Alors tu me dis pourquoi il ne peut pas me donner cela? Parce qu'il t'a donné un libre arbitre, une libre volonté. Et c'est pour cela qu'il veut que nous soumettions notre volonté à la sienne. Le cœur du christianisme est la soumission de ma volonté à la volonté de Dieu. Nous devons bien saisir que de se soumettre à Dieu ne veut pas dire de supprimer ma pensée. Vous ne pouvez pas supprimer votre pensée. Parce que lorsque vous essayez de faire cela, c'est impossible. Il n'y a pas de vide dans notre pensée. Si nous pouvions vider notre pensée, le diable viendrait. On ne nous dit pas de vider notre pensée. Ça, c'est le nouvel âge qui enseigne ces choses, de faire le vide dans nos pensées. Ce sont ce que les fausses religions enseignent, de vous faire méditer, de faire le vide en soi, afin que vous receviez une soi-disant puissance. Mais en réalité, ce que vous recevez, ce sont des démons. Ce sont des anges de lumière qui sont en réalité des démons déguisés qui vont vous amener vers l'enfer. La Bible ne nous dit pas de faire le vide, mais de renouveler notre pensée. Cela ne veut pas dire d'enlever nos pensées, mais bien de mettre de nouvelles pensées en nous. C'est notre tâche. Dieu ne veut pas qu'on devienne des marionnettes où il vous dirige comme ça et Dieu bouge et vous bougez. La volonté suprême de Dieu, ce n'est pas de vous forcer dans sa volonté. Les gens croient que si vous allez au marché et que vous poussez le petit carrosse et que vous passez près d'une personne malade et que tout à coup, Dieu va prendre votre main et la lancer sur la personne malade pour que vous priez. Alors vous marchez comme ça dans l'épicerie, vous achetez vos trucs et tout à coup, sans votre consentement, Dieu prend votre main et pouf, la place sur la personne malade. Non, Dieu n'agit pas comme cela. Dieu veut que vous soyez touchés par les malades, que vous ayez la même compassion que lui, il a envers les gens et que cette compassion va vous amener à prier pour cette personne malade. Voilà la volonté de Dieu. Parce qu'il veut vivre à travers toi et de voir à travers tes yeux. Et vous allez voir les gens comme Dieu les voit. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque vous accomplissez cela, alors vous devenez semblable à Jésus-Christ. Et peu importe qui va être avec vous, ils vont pouvoir écrire dans leur journal intime les mêmes choses qu'on a dit de Jésus-Christ. Il dira quelque chose comme « André est rempli de compassion et il guérit les malades ». Voilà ce que Dieu veut. Vous ne trouverez jamais dans le Nouveau Testament un endroit où il est dit que Jésus fut conduit par l'Esprit pour guérir les malades. Non, aucun endroit on dit cela. Réfléchissons à cela. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et Jésus a dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il nous dirigera dans toute la vérité. Il n'a pas dit que l'Esprit de vérité nous conduira à l'action. Il a dit qu'il nous conduirait dans la vérité. Et lorsqu'il nous conduit dans la vérité, à un certain point, je dois prendre une décision. Est-ce que je vais agir selon cette vérité? Et lorsque vous faites cette décision, c'est vous qui le décidez. S'il n'y avait pas d'action impliquée là, Jésus ne pourrait pas donner aucune récompense, comme le dit la Bible. Alors la Bible est très précise à ce sujet-là. Il est toujours nécessaire que je prenne une décision et que je passe à l'action selon ma connaissance de la vérité. Et c'est la seule manière que Jésus peut nous récompenser. Non pas seulement une obéissance aveugle, ou est-ce que je vais me soumettre à toute émotion ou toute espèce de soi-disant direction que je crois qui vient de Dieu, ou si je crois entendre des voix, ou la voix de Dieu. Toutes les sectes qui existent actuellement ou qui ont toujours existé, ont toujours débuté avec quelqu'un qui a entendu une voix et qui a dit quelque chose qui n'était pas en accord avec la Bible. Alors si c'est l'Esprit de vérité qui vous parle, Jésus a dit, l'Esprit de vérité vous rappellera tout ce que j'ai dit. Si l'Esprit de Dieu doit nous parler, il va nous amener à nous souvenir de quelque chose qui est écrit déjà dans la Bible. S'il nous dit des choses qui sont extérieures à la Bible, qui sont contraires à la Bible, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Alors, si l'Esprit de Dieu nous conduit à accomplir la Bible, alors vous pouvez la prendre n'importe où, n'importe quand, et agir selon ce qu'il est écrit. Et vous savez qu'en accomplissant ce qui est dit dans la Bible, alors cela vient de l'Esprit de Dieu. C'est de cette manière qu'il nous conduit. Alors, vous vous dites, comment est-ce qu'on se ressent quand l'Esprit nous conduit? Alors, moi, je vous dirais, comment vous sentez-vous quand vous faites la bonne décision? C'est le même sentiment. L'Esprit va vous aider à faire les bonnes décisions. Dieu désire que notre volonté devienne conforme à la sienne. Alors, j'aimerais vous lire un passage, une citation d'un livre qui a été écrit par Gordon Lindsay. C'est un honneur pour moi de lire cette citation. Parce que Gordon Lindsay a été sauvé sous le ministère de John Lake. Et Gordon Lindsay et sa famille habitaient en dehors de la ville de Portland. Et l'église de John Lake était à Portland à cette époque. Et il a dit, c'est-à-dire John Lake a dit à Gordon Lindsay qu'un jour viendrait un homme qui prêcherait dans son église. Alors Gordon n'était pas encore sauvé, mais il est allé entendre cette personne prêcher. Et il a été sauvé au mois de décembre, en 1924. Et il a commencé à voyager avec John Lake, et il a écrit certaines choses à propos de John Lake. Alors la citation spécifique que j'aimerais vous lire fait partie d'un sermon que John Lake a prêché, qui avait comme titre « Comment accomplir la volonté de Dieu ». Alors John Lake a dit qu'il y avait deux étapes pour entrer dans la volonté de Dieu. Et les choses que je vais vous lire maintenant vont clarifier certaines des choses que je vous ai déjà dites. Alors, il a dit, il y a deux étapes pour entrer dans la volonté de Dieu. La première est de soumettre notre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, chaque chrétien a fait cela. Si vous n'avez pas encore fait cela, vous n'êtes pas un chrétien. Peu importe, ça fait combien de temps que vous allez à l'église, vous devez soumettre votre volonté à Dieu pour accomplir sa volonté. Il a dit, la plupart de la conception des gens de faire la volonté de Dieu et de devenir une entité non existante, comme un robot. Ce n'est pas le but de Dieu d'avoir à vous pousser partout ou de vous faire bouger comme une machine. Et l'autre étape, l'autre phase, est de reconnaître que vous êtes un fils ou une fille de Dieu au service des autres. Alors j'ajouterai à cela que vous devez aussi savoir que vous êtes le maître du diable. Souvenez-vous ces trois choses. Vous êtes le fils de Dieu, le maître du diable et le serviteur des autres. Vous ne pouvez pas servir les autres jusqu'à ce que vous deveniez le maître du diable, parce que vous ne pourrez pas enlever la maladie de chez les hommes jusqu'à ce que vous commandiez au diable de vous obéir. Et vous ne serez jamais le maître du diable jusqu'à ce que vous soyez fils et filles de Dieu. Maintenant, je sais qu'il y a des dames ici, et ce que j'aimerais dire va clarifier certaines choses aussi. Alors, vous m'entendez dire sans cesse que nous sommes les fils de Dieu. Mais vous dites, je suis une femme. Mais en Christ, il n'y a ni homme ni femme, parce que votre vie est aussi cachée en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes une fille de Dieu, vous êtes dans le Fils, et quand vous parlez, le diable n'entend pas une voix de femme ou d'homme, il entend la voix d'un fils et d'une fille de Dieu. Alors, nous représentons Jésus-Christ, que nous soyons hommes ou femmes. Nous avons le même esprit. Je ne me contredis pas ici. Toutes choses viennent à ce même but. Je ne contredis aucun verset de la Bible. Mais j'ai peut-être dit beaucoup de choses qui ont contredit votre ancienne manière de penser. Et c'est pour cela que maintenant, alors que nous sommes à peu près à la moitié de notre séminaire, notre conférence, si vous êtes demeuré ici toutes ces sessions, vous êtes déjà différent de qui vous étiez lorsque vous êtes venu. Et vous ne savez pas encore le changement qui prendra place en vous, parce que vous avez été libéré pour agir comme Jésus agit. Et toutes les objections que vous aviez dans vos pensées, dans les prochaines sessions, vont être complètement dissipées lorsque nous aurons terminé. Alors, votre manière d'interpréter certains passages de la Bible auparavant est en train maintenant d'être transformée, plutôt que de devenir des interprétations basées sur des compréhensions humaines ou sur certaines fausses théologies. Vos pensées sont maintenant renouvelées et votre esprit commence à recevoir la lumière, la vraie lumière de ce que dit réellement la parole de Dieu. Parce que nous avons cette habitude de lire la Bible à travers nos lunettes religieuses. Mais lorsque vous découvrez ce qu'elle dit réellement, c'est merveilleux de voir la simplicité de la Bible. Alors, continuons la citation que j'aimerais vous partager. Alors, John Lake a dit, « Je crois que l'exhibition la plus magnifique de cette vérité que Dieu peut nous donner est dans le fait qu'il nous donne le Saint-Esprit afin que nous l'utilisions pour lui. » Et même cela, c'est l'opposé de ce que nous pensions auparavant. Nous croyons que nous avons le Saint-Esprit afin que nous soyons utilisés pour Dieu. Il ajoute, « Le Seigneur a dit, ils vont poser les mains sur les malades et les malades seront guéris. Mais si vous ne placez pas vos mains sur les malades, ils ne seront pas guéris. C'est triste de voir que Dieu doive continuellement essayer de chercher partout, ici et là, afin de trouver quelqu'un et même de lutter, d'avoir à lutter avec quelqu'un pour les convaincre de faire quelque chose pour lui. John Lake a dit, il y avait une école biblique en Ohio où à chaque réunion de prière, pendant 9 mois, ils ont prié pour recevoir les dons de l'Esprit-Saint. Et je leur ai dit, il me semble que si vous demeurez 10 ans de plus dans votre chambre de prière, vous allez manquer les dons de l'Esprit. Mais si vous enlevez votre manteau et que vous allez et utilisez ce que Dieu vous a donné pour bénir les autres, il va vous donner davantage. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est le principe de semer et moissonner. Alors, si on donne ce que nous avons, nous allons récolter. La Bible ne nous dit jamais de prier pour recevoir plus de puissance, ni recevoir plus de foi. On ne nous demande pas cela, de demander et d'être là à mendier pour recevoir la puissance de Dieu et la foi. Mais si vous allez et utilisez ce que Dieu vous a donné, il va vous donner davantage. Parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. Alors, si vous voulez plus de quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Donnez ce que vous avez. Nous avons appris cela au niveau des finances, mais nous devons aussi comprendre que ça s'applique à la puissance de Dieu. Vous savez que si vous avez besoin de finances, vous pouvez semer à ce niveau-là et Dieu va ramener une abondance dans votre vie. C'est un fait. Mais aussi, si vous avez besoin de plus de puissance de Dieu, vous devez donner ce qu'il vous a donné et vous allez récolter davantage. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Ah, j'aimerais prier pour les gens, mais je suis malade. » Et je leur dis, la manière la plus certaine que vous serez toujours guéri et que si vous êtes malade, priez pour les malades. Pourquoi? C'est le principe de la semence et de la récolte. Vous avez besoin de guérison? Donnez la guérison à d'autres. Si vous donnez la guérison à d'autres, cela va revenir à vous et vous serez guéri. Alors vous dites, montre-moi ça dans la Bible. Dans le livre de Jacques, il est dit de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors deux personnes malades peuvent même prier l'un pour l'autre et les deux seront guéris. Vous me dites, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Cela ne fait aucun sens. Cela donne la foi. Cela est la vérité. Attention à ce que vous dites. Souvenez-vous ce que nous avons lu dans Corinthiens. La personne humaine ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alors, lorsque vous dites « ça ne fait aucun sens », alors vous dites à tous les gens qui vous entourent que vous n'êtes pas une personne spirituelle. Si vous pensiez l'opposé, vous penseriez comme Dieu pense. C'est un principe divin. J'aimerais vous donner un autre principe divin. Je voyage partout dans le monde et Dieu me bénit partout où je vais. Et partout dans chaque pays, je fais la même chose. J'enseigne le même enseignement et les mêmes résultats se manifestent. Alors, qu'est-ce que je fais réellement? Je sème la guérison partout où je vais. Alors, si je sème la guérison, alors que devrait être ma récolte? Alors, la guérison. Et voyez-vous, j'ai prié pour toutes sortes de maladies et je n'ai jamais attrapé ces maladies-là. Pourquoi? Parce que je sème la guérison partout et je récolte la guérison dans ma vie. Alors je vis ma vie dans la santé divine. Alors je ne peux pas être plus guéri que d'être guéri. Alors je dis que lorsque moi je suis en bonne santé, lorsque je suis bien en moi, alors je n'ai plus besoin de guérison pour moi-même. Et pourtant, je continue de semer la guérison partout. Alors, qui va récolter cette guérison? C'est Dieu. C'est lui qui est responsable de ma guérison. Alors, si je continue de semer, je continue de récolter. Mais je n'ai plus besoin de guérison pour moi-même. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la vie en abondance. Qu'est-ce que la vie en abondance? Cela veut dire que j'ai tout ce qui me convient pour moi-même et j'en ai même davantage pour le donner aux autres. Vous êtes ma récolte. Alors, c'est pour ça que je ne vous demande pas si vous avez la foi. Alors, partout où je vais, je ne demande jamais à personne s'ils ont suffisamment de foi parce que cela fait partie de ma récolte. Alors, cela ne fera pas de différence à la récompense que Dieu me donne. Si je sème la guérison, je récolte la guérison et il n'y a pas de différence si la personne a la foi ou pas. Alors, lorsque je prie pour les gens, je ne suis pas en train de rechercher s'ils ont la foi. Je ne suis pas en train de regarder à leur foi. Je suis en train de récolter. Je suis en train de ramasser ma récolte. J'ai le droit de récolter parce que je sème. Voilà. C'est pourquoi vous êtes guéri. J'ai la vie en moi et je peux la donner. N'est-ce pas simple? Alors, si vous voulez donner ce que vous avez en vous, et particulièrement si vous-même avez besoin de la guérison, et si vous commencez à donner, alors vous-même recevrez aussi une récolte, de plus en plus. Alors peut-être que vous vous dites, oh, ça c'est une drôle de manière de voir les choses, et c'est un enseignement bizarre, et je ne le comprends pas, mais je crois que je vais le mettre en pratique. Alors là, c'est votre pensée qui commence à être renouvelée, pensée comme Jésus. C'est la manière de Jésus de penser. Jésus n'a jamais accepté qu'il y avait un manque. Il n'a jamais, jamais, il n'a jamais questionné si la foi était assez haute avant de prier. Il ne s'est jamais demandé s'il avait assez d'onction pour prier. Il ne s'est jamais demandé s'il avait suffisamment de puissance avant de prier. Parce qu'il savait que sa source était sans limite. Tout ce qu'il devait faire était laisser son Père agir à travers lui. Et c'est ce que je vous enseigne. Alors, à ce moment-ci, nous allons prendre une pause.